Je suis donc encore dans le paragraphe La résurrection au cœur de la foi chrétienne. Quand on lit les évangiles sur les événements survenus après la mort de Jésus, on est frappé par le fait que les disciples sont loin d'attendre ou de s'attendre à une telle affaire. Pensons par exemple à un des récits les plus connus, Emmaüs. Quand ils disent « Nous croyons à l'imparfait, au passé, mais voici 3 jours que... » Et donc ils rentrent, ce jeu. Et ils laissent les centres, l'épicentre des événements, Jérusalem. Ou le chapitre 21 de l'évangile des Jean, du quatrième évangile, quand on retrouve les disciples en Galilée qui sont retournés à leur boulot de pêcheurs. Et Pierre dit, je sors pêcher. Bon, nous allons avec toi. Ils vont, ben, il faut quand même gagner sa croûte. Bon, chacun revient dans son monde à eux. Et même l'inénarrable Marie-Madeleine. Toute amoureuse qu'elle était de lui, etc. Elle ne le reconnaît pas. Il lui dit, c'est toi le jardinier ? Bon. On dit effectivement que l'amour rend aveugle, mais pas quand même, jusqu'à un certain point. À un certain point. Personne ne reconnaît Jésus de Nazareth dans la présence du ressuscité. Dans cette expérience des disciples, il y a quelque chose de radicalement nouveau. Il ne s'agit pas d'un retour à la vie comme Lazare. Lazare, dès qu'il est sorti de son trou, tout le monde l'a reconnu. Ou le fils de la veuve de Naïm. Là, il n'y a pas un doute de rien. Ils reviennent à la vie. Jésus ne revient pas à la vie. Ils reviennent à la vie pour mourir une deuxième fois. Par cette difficulté unanime à le reconnaître, ces récits montrent que le Jésus que l'on rencontre est en même temps le même, d'où la reconnaissance qui finit par se faire, l'histoire Thomas avec les trous, les ceci, les cela, ou chez Luc, avez-vous quelque chose à manger ? Non. Et là, ils les reconnaissent. Non. Mais en même temps, il y a la reconnaissance et il y a aussi les tout autres qui empêchent cette reconnaissance. Il y a donc une continuité reconnaissance et une rupture non reconnaissance. Une continuité, une rupture entre les crucifiés et le ressuscité. Et c'est bien ces couples ressuscité-ressuscité qui va devenir clé et essentiel dans les témoignages des apôtres, enfin des disciples plutôt. Les crucifiés a été ressuscité par Dieu et c'est le même. les crucifiés et les ressuscités, les ressuscités, c'est les crucifiés. Mais ça, c'est tous les ans, on a des cas comme ça à la Semaine Sainte. Bon. Jeudi Saint, c'est très mignon, c'est l'amour pour tous. Ça, là, ça, des caringoles, des crèmes fraîches, etc. Bon, très bien. Les lavements de pieds, bon. Les samedis, bon, c'est Alléluia, Alléluia, bon, très bien. Mais le vendredi, vous pouvez constater que c'est la célébration de la Semaine Sainte à laquelle il y a le moins de monde. Bon, je ne dis pas que dans les autres, il y a foule, mais toute comparaison faite, le vendredi, il y a des gens que la croix leur reste à travers de la gorge. Je vois quelqu'un, par exemple, une dame qui doit avoir maintenant, justement, à peu près l'âge de ma tante, 98, voire plus, dans les quartiers, qui est très... Elle m'a dit explicitement, écoute, jeudi, ça va, samedi, ok, mais vendredi, non. Et, une autre fois, dans le même sens, il y avait eu un étudiant que j'avais eu à la Cato, etc., et à la fin de sa licence, donc il avait eu le baccalauréat canonique, il avait fait les 4 ans, tout, à temps plein, etc., était venu me voir, c'était un général qui a commencé à faire des études de théologie à la retraite, mais comme les militaires prennent la retraite relativement tôt, disons, donc il avait eu encore... Et il vient me voir, il me dit, écoutez, ça a été très bien, tous ces 4 années, etc., tarala, tarala. Mais il y a un truc... La résurrection, je la comprends, pas de problème. Et vous avez la chance, ma femme, très bien. Alors, la croix, non. Ça... Et au bout de 4 ans de théologie, et de, je ne sais pas, il devait avoir 62 ans, 63 ans, de vie active, si l'on peut dire, dans les armes, ou sous les armes, ou... la croix, non. Enfin, et quand il disait... Je ne la comprends pas, je n'accepte pas. Enfin, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand Paul nous dit la sagesse de Dieu, c'est la croix, ben, lui, ça, c'est de la folie pure. Enfin, bref. Il faut tenir donc les deux bouts de la chaîne, crucifié et ressuscité, et ne jamais dire l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Deuxième caractéristique donc de cette résurrection, c'est que l'événement, Dieu a ressuscité Jésus, est permanent. Ce qui s'est passé dans cette articulation crucifixion et résurrection inaugure une vie nouvelle qui, par sa nature elle-même, ne peut pas disparaître par sa nature. Troisième caractéristique, cet événement de la résurrection en lui-même est révélation. En ressuscitant Jésus, Dieu dit quelque chose de lui-même, de Jésus et de leur relation, ainsi que par cet acte, cet événement, il dit aussi quelque chose aux hommes. Et comme dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, si Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Donc il y a conséquence. Des effets, on pourrait dire, non pas collatéraux, mais enfin... Il apparaît donc clair que les premiers chrétiens, les disciples, au fur et à mesure qu'ils ont digéré cette réalité nouvelle, que le Christ était vivant et ressuscité par Dieu, ça a servi comme une sorte de clé de lecture de tout ce qu'ils avaient vécu avant. Ça arrive souvent. On vit comme ça, plouf, plaf, ceci et cela, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. C'est à la lumière de ces affaires qu'on va lire et comprendre ce qui s'est passé avant. Et ce qu'ils avaient accumulé comme expérience et comme souvenir, comme mémoire de leur vie avec le Christ, les paroles, les faits, etc., sont relus, si vous voulez, à la lumière de la résurrection. On dit, il s'agit pour eux de comprendre ce qu'il avait fait et ce qu'il avait dit à partir de leur expérience de la résurrection. Et les évangiles sont l'aboutissement, noir sur blanc, de cette relecture de dits et de faits de Jésus de Nazareth à la lumière de sa résurrection. Ces noyaux durs s'appellent le kérigme, c'est un mot qu'on dit souvent, il apparaît même dans certains sermons. C'est un mot grec, dérivé du verbe kerubzo qui veut dire annoncer, c'est-à-dire l'annonce. Autrement dit, proclamer, comme il est dit dans les Actes, c'est Jésus que vous avez mis à mort et que Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes les témoins. Le noyau dur de la foi chrétienne, c'est là. La mort et la résurrection du Christ. C'est pour ça qu'un des points essentiels dans la célébration eucharistique, c'est justement ce qu'on appelle l'anamnèse. Après le récit de l'institution, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Et en même temps, à la première personne du pluriel, c'est une confession communautaire, ecclésiale. Mais ça, c'est, vous savez là, le credo en condensé, le premier credo, le kérigme. C'est pour ça que parfois, là où j'ai... préside, etc., c'est dans une église où on dit rarement le credo. Après, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, vous n'avez pas dit le credo ?» Si, cocotte. On a dit les credos à l'anamnèse, parce que ça, la proclamation du kérigme, c'est le noyau dur du credo. En dehors du fait que le fait de célébrer, c'est en soi une proclamation du credo. Sinon, on va à la piscine. D'accord ? On va pas seulement au spectacle. Bon. Ce kérigme va se déployer en catéchèse, va expliquer, raconter, et en parénèse, c'est-à-dire, on va tirer les conséquences dans la vie pratique de cette résurrection et de cette proclamation de Jésus mort et ressuscité. Parce qu'il est mort. S'il est mort, c'est pas comme ça par hasard. S'il est mort comme il est mort, c'est comme conséquence de sa vie, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Et il faut en tirer les conséquences pour ceux qui se disent aller à sa suite. Donc la parenèse. Voilà. Point suivant, suivant le programme, Jésus annonce le royaume et révèle le vrai visage de Dieu. Jésus donc annonce le royaume. Annoncer le royaume était relativement classique à cette époque. D'ailleurs, il faudrait dire plutôt, pas tellement le royaume, mais le règne. Et le royaume, ça fait allusion à une réalité géographico-politique, comme on dit maintenant, géopolitique. C'est plutôt le règne. D'ailleurs, dans le Notre Père, on dit que ton règne vienne. Il s'agit de la présence et de la souveraineté de l'amour de Dieu dans sa création et dans l'ensemble de relations entre les humains. Un amour qui est censé vaincre les forces du mal, de la souffrance, de la mort. Disons que, à l'époque de Jésus, il y en avait pas mal qui concevaient ou imaginaient ces règnes des dieux d'une façon disons très concrète et très politique, avec les figures ou l'image dont on avait vu les jours précédents, le Messie comme un roi qui met en œuvre le plan ou le programme de Dieu. D'autres, comme vous savez, s'est détaché de cette vision politique et même l'excluer complètement. On a vu déjà. Comment se situe Jésus par rapport à ces règnes de Dieu? Il l'annonce. Le royaume de Dieu est parmi vous. Et il l'annonce en parlant et en agissant, les deux. Il parle autant qu'il fait, et il fait autant qu'il parle. Une mini piqûre de rappel, que ce soit pour les paroles comme pour les faits, nous n'avons aucun récit ni aucune trace matérielle laissée par lui-même. Même du point de vue théorique, on pourrait dire, ou du point de vue idéologique, les chrétiens ne disent jamais que nous avons dans ces textes des textes écrits par Jésus. D'emblée, on vous dit que c'est Marc, Luc, machin. Il n'y a aucun texte qui est référé matériellement à Jésus. C'est exactement autre chose que dans le Coran ou dans le judaïsme avec la Torah. Tout ce qui les concerne, ce sont des paroles et des récits de témoins. Et cela nous donne, nous avons une chance inouïe. Parce que d'emblée, nous sommes dans le registre du témoignage varié. nous ne sommes pas, comment dire, collés à la matérialité d'une parole. Parce que les intégrismes de toutes sortes, évidemment, sont très friands de cela. Mais là, nous n'avons pas une biographie autorisée, comme on dit. Nous en avons quatre différentes. Plus Paul qui complique tout, plus encore. Et ça, nous avons une chance terrible, parce que sinon, imaginez-vous si nos textes se présentaient comme ayant été écrits par Jésus lui-même. On partirait du principe que c'est intouchable. Intouchable.
On dit bien par l'évangile.
Oui, non, voilà. Tout ce qu'on peut dire, et toutes les images qu'on peut avoir, tous les schémas et tous les poncifs qu'on peut avoir, ça c'est très très bien. Ça. Enfin, ça ne résiste pas. C'est qu'on dit les paroles d'évangile, la matérialité du Nouveau Testament, ce sont des témoignages des gens sur Jésus. Ce n'est pas l'expression explicite de Jésus. Direct. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas trouver par des travails rigoureux, etc., qu'on puisse, avec une vraisemblance réelle, que ça remonte jusqu'à lui, ça c'est une autre histoire. Mais d'emblée, vous ne pourrez jamais fermer, disons pour parler vulgairement, la gueule de quelqu'un en disant « Jésus a dit que ». Bon. Bon. C'est déjà... Est-ce que si on avait ça, ça aurait été vraiment... Déjà que c'est pas facile tant qu'on a, voilà. Bon. Pour ce qui est de ces paroles, il y a une manière de parler qu'on trouve dans les quatre évangiles, surtout dans les trois synoptiques, qui est incontournable. Ce sont les paraboles. Mais encore une fois, ce n'était pas une spécificité de Jésus. Nous avons aussi des collections des paraboles rabbiniques. Parfois, sont les mêmes. Mais la parabole, comme on va voir maintenant, peut être utilisée dans différentes finalités. Vous avez dans les évangiles la même parabole, utilisée dans Luc et dans Matthieu dans des contextes différents et en tirant des conclusions différentes. On a là déjà aussi des paraboles dans l'Ancien Testament. La parabole de la vigne avec Isaïe, la parabole du pauvre type qui avait une petite brebis avec David, etc. Bon, on a quand même quelques paraboles et puis il y a d'autres qui sont extrêmement intéressantes aussi. Il s'agit d'un court récit. C'est un récit, un court récit de la vie quotidienne, enfin qui touche à la vie quotidienne, les brevis, la pâte à pain, que tout le monde peut comprendre sans expliquer ni savoir, sans avoir fait l'ENA. Dieu merci. Et que personne ne peut nier les conclusions qu'on en tire. Bon, si vous racontez un récit comme quoi une femme était affolée parce qu'elle avait perdu son argent, puis qu'elle le trouve et qu'elle est toute contente, elle dit, ben oui, quelle chance qu'elle a eu. Bon. Alors, l'art du paraboliste, celui qui fait une parabole, c'est d'appliquer ces schémas à une autre situation qui n'a rien à voir, a priori, et l'auditoire est coincé parce qu'il n'a pas pu que adhérer à la conclusion tirée du récit sur l'affaire. Et du coup, il se trouve coincé. Il ne peut que être d'accord aussi avec la conclusion à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Par exemple, souvenez-vous, la célèbre parabole avec David, David qui avait donc piqué la femme Bethsabée de son ministre des armées, si l'on peut dire. Très bien. Oh, très bien. Et le prophète Nathan va lui raconter une histoire, etc. Voilà, il y a un type qui avait une brebis qu'il aimait beaucoup, etc., etc. Et à côté, il y avait un grand Richard qui avait des troupeaux et des troupeaux. Bon. Un jour, il y a un ami qui vient chez le Richard. Et pour faire un bon dîner, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va piquer la brebis du voisin pauvre. Il va faire un super banquet. Alors, évidemment, David sort de son trône, il dit « Qu'est-ce que c'est, salaud ?» etc. Puis l'autre dit « C'est toi. » Une fois qu'il avait adhéré à la conclusion comme quoi le Richard était un salaud, quand tu lui dis, mais c'est toi parce que. Il ne peut. Enfin, il se condamne lui-même. Et ça, c'est l'art du paraboliste, d'attirer son auditoire à une conclusion à laquelle il ne s'y attendait absolument pas. Mais. C'est un moyen pédagogique pour faire passer des idées ou des conclusions auxquelles on n'est pas prêt à adhérer. En filigrane de ces paraboles, Jésus non seulement se met en scène lui-même, mais il délivre un message qui consiste à dire « Le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui que quoi. » Et il répond par là aussi, et il dit quelle est l'image de Dieu qu'il prétend faire passer. Et là, vous avez un cas extrêmement célèbre, la parole du fils prodigue. À mon avis, il faudrait changer de titre, il faudrait dire, ou bien du père aimant, si vous voulez, ou du frère qui n'a rien compris à tout ça, ou l'un ou l'autre. Mais le fils prodigue, il est, disons, pratiquement pourri, parce que le texte commence, le chapitre 15 de Luc commence par dire « Les pharisiens et les auteurs de la loi critiquaient Jésus, disant « Cet homme-là, ce type-là, il mange avec les collecteurs d'impôts et avec les prostituées, ça ne peut pas être quelqu'un de bien. » Et Jésus ne leur répond pas en faisant un discours en trois points, introduction plus conclusion, non. Il raconte trois paraboles. La brebis perdue, l'argent perdu et l'enfant perdu. Pour dire, écoutez, moi je ne suis pour rien, je ne fais comme Dieu. Je ne fais que faire comme Dieu fait, qui accueille. Et c'est très intéressant parce que dans la parabole de l'enfant prodigue, à la fin, bon, toute l'histoire, le fils aîné rentre, etc., il voit toute la musique et tous les tralala, et les furax, je ne vais pas rentrer, et le père sort. Un qui n'est pas rentré, l'autre qui... Bon, le père sort. Et il lui explique. Il fallait bien faire la fête. C'est ton père était perdu, il était mort, maintenant il est revenu à la vie. Et ça se termine là, et le texte ne nous dit pas si le fils aîné est rentré, hein, ou s'il a persisté. J'ai droit, tu m'as jamais donné, etc. T'es mauvais. Le texte ne nous dit pas, ça nous laisse avec l'interrogation. Et évidemment, ça ne sait pas. Ce texte, c'est pas pour nous raconter qu'un jour il y avait deux fils, etc., etc. C'est pour nous dire à nous. Et nous, évidemment, on s'identifie tout de suite avec l'enfant prodigué. On utilise ça. Dans la cérémonie, carême, etc., etc. Et pourquoi nous ne nous identifions pas avec le fils aîné? Par exemple. Mais la parabole dit quelque chose de Dieu. Et Jésus les utilise justement pour expliquer pourquoi et comment lui, il est l'expression de Dieu, et par les paraboles, il explique cela. Bon, il est vrai que Jésus parle aussi avec des discours. Parfois, il fait chez Matthieu un peu, pas mal. Alors, chez Jean, là, vous avez des discours longs. Et pas simple. Le paradoxe de l'évangile de Jean, c'est que si vous faites du grec, au bout de 4 ou 5 mois, on vous donne des phrases à traduire. Et c'est toujours des phrases de l'évangile de Jean parce que c'est le plus facile à traduire. Vous n'en avez pas à comprendre. Après, Jean, c'est très élaboré, je dirais même parfois un peu tordu. Je m'en vais, mais je ne m'en vais pas. Vous me verrez, mais vous ne verrez pas, parce que je pars, mais je reviens. Enfin bon. Et en plus, l'humour va jusqu'à Philippe, hein, un moment où il dit « Ah, maintenant c'est bien, maintenant tu parles clairement. » Je dis « Ah bon ?» Parle clairement. Enfin bref. Jésus a autant parlé par ses gestes que par ses paroles. On parle souvent des miracles. Mais il faut se méfier du mot parce que il suppose dans la plupart de nos têtes, les miracles, une dimension magique et spectaculaire qui n'a pas de mise dans les cas de ces récits de guérison, n'importe. Dans les faits et gestes de Jésus, où les faits et gestes de Jésus ne sont jamais, jamais réalisés dans un autre but que celui de mettre en œuvre et de montrer l'action de Dieu par son intermédiaire. Ce n'est pas pour faire une démonstration comme dans le cirque, encore plus difficile. Puis là, maintenant, si c'était avec deux machins, maintenant on va faire avec quatre. Non, mais très souvent, on les prend comme ça. Le seul but de ces récits merveilleux, c'est de guérir et libérer, comme dit Pagola. Guérir de tout ce qui empêche de vivre, et libérer de tous ceux qui entravent la vie. Une dimension très importante dans tous ces récits merveilleux. Très importante. À chaque fois, la personne guérie, les guérit de quelque chose qui l'empêche de vivre en communion avec les autres. parce qu'il ne peut pas marcher, parce qu'il est un boiteux, parce qu'il ne peut pas voir, parce qu'il ne peut pas entendre, parce que la femme qui perd son sang, qui l'a fait obligatoirement impure, donc ne peut pas être avec les autres, l'épreuve, je ne dis pas. Enfin, et à chaque fois, c'est un rétablissement dans la relation avec les autres. Ça, c'est très, très important. Prenons un exemple typique des détournements des sens, tel que je le dis, de ces récits miraculeux. On parle toujours, et même les éditeurs des Bibles les font, par les sous-titres, etc. La question de, ou les récits de, entre guillemets, la multiplication des pains. Et vous verrez justement dans vos Bibles qu'ils mettent ces titres. En utilisant ces titres, on pointe déjà obligatoirement et on donne à pointer au lecteur vers le merveilleux spectaculaire. On donnait à manger à 5000 personnes avec deux bouts de pain. C'est pour ça qu'on parle de la multiplication de pain. Or, dans aucun des évangiles, et en Marc il y a deux récits, dans aucun texte évangélique on trouve le terme multiplication ou quoi que ce soit qui s'en approche. On trouve, par exemple, dans un récit de Marc, « Donne-leur vous-même à manger. » L'ensemble de la scène, dans les quatre, se résume à couper et partager. On pourrait dire, pour faire simple, aller un peu à l'encontre de la manière habituelle qu'on a de lire ces textes, que en partageant, le pain devient abondant pour tous. Et si on ne le partage pas, rétrécit. Ouais, ça, bon, là vous allez me dire, mais ça c'est vraiment du sermon de troisième niveau, d'accord, oui, mais bon, et quelque part, c'est un peu vrai. On est donc dans une logique tout à fait différente que dans celle de multiplier, entre guillemets.
Pourquoi le titre ?
Parce que... Mais c'est très souvent, les éditeurs sont le produit, si l'on peut dire, de l'ambiance culturelle, etc. etc. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier, comme dans la peste, des sous-titres. Et si vous lisez dans une célébration un texte, ne lisez jamais les titres ou les sous-titres, parce que, premièrement, ça ne fait pas partie du texte. Et, troisièmement, vous allez orienter déjà la lecture. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner des pistes pour comprendre la lecture, mais pas forcément celle de l'auditeur. Mais ils le font, parce que c'est une façon habituelle de lire. Bon, par exemple, vous savez, un autre cas, hier encore. Vous avez entendu les tests de Marc. Et le tremblement de terre, tout ça. Bon. C'est un texte qui a son parallèle en Matthieu et en Luc. Et très habituellement, vous en trouverez encore, par exemple, dans les anciennes éditions de la Bible de Jérusalem, on parle déjà discours apocalyptique. Maintenant, à force, ils mettent discours eschatologique. C'est pas du tout pareil. Parce qu'apocalyptique, c'est une orientation très précise. Et bon, je me souviens, j'avais fait il y a quelques années tout un article pour dire les Nouveaux Testaments ne peuvent pas être apocalyptiques. Pour une raison très simple. L'Apocalypse attend l'action finale et définitive des dieux en faveur de son peuple ou des gens. Or, pour les chrétiens, cette action définitive des dieux en faveur des hommes a été déjà faite par et dans le Christ. Donc nous ne pouvons pas, nous n'avons pas besoin d'être apocalyptiques. C'est aussi bête que ça. Mais comme l'imagerie de ces discours reste encore celle utilisée dans la littérature apocalyptique de l'époque, bon, vous mettez, et encore, je pense qu'il y en a dans d'autres traductions, discours apocalyptique. Non, c'est pas du tout. C'était un discours eschatologique, c'est-à-dire qui traite de la fin. Mais la différence est quand même colossale, colossale. Et c'est vrai que les premiers chrétiens ont eu du mal à sortir de cette ambiance apocalyptique qui était, même Paul, pendant quelques temps, il attendait le retour du Christ pour après-demain, pour jeudi.
Vous pouvez redonner la définition de l'eschatologie.
Merci beaucoup.
C'est super. L'eschatologie est une attitude, une croyance qui attend des dieux une action future et définitive en faveur de son peuple. Il faut que ce soit futur et définitive. Pas une espérance un peu de troisième niveau, non, non. C'est l'action définitive et future, l'action donc de Dieu, future et définitive, en faveur de son peuple qui en a besoin, justement. Et pour les chrétiens, cette eschatologie a été déjà faite par le Christ, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une eschatologie. Je pense que vous avez entendu parler de cette célèbre phrase, c'est un peu crispante, c'est du « déjà et pas encore ». L'eschatologie et la fin pour nous chrétiens a été réalisée par le Christ, mais n'est pas encore accomplie à nous, sinon ça c'est vrai. N'est-ce pas ? Ça demande à être retravaillé, etc. Mais toute apocalyptique est quelque part et d'une certaine manière eschatologique. Mais oui. Mais toute eschatologie n'est pas apocalyptique, loin de là. Ce qui demande effectivement à définir avec précision les deux termes. Parce que sinon, on peut parler pendant 1000 ans, et puis c'est ce qui s'est passé souvent. On utilise les termes sans définir. Tu sais, comme il y a quelques temps, à propos d'une autre histoire très compliquée aussi, mais les mots « alliance ». Je pense qu'il n'y a pas un sermon, ni une retraite, ni un machin dans lequel on ne conjugue pas par actif, par passif, par voie moyenne le mot alliance. L'alliance est ici, l'alliance est ici. Et l'autre jour, j'ai discuté avec un séminariste de Paris, je ne sais pas pourquoi on est venu à parler de ça. Je lui disais, mais une alliance, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Et je lui dis, justement, c'est une relation des réciprocités des droits et des devoirs entre des personnes ou entre institutions ou n'importe quoi. Une relation des réciprocités. Mais il peut y avoir aussi des alliances unilatérales du cocon, mais ça, ce n'est pas une alliance. Le mot alliance, par principe, il en faut deux. Et pour que ce soit une alliance dans le sens propre du terme, il faut qu'il y ait des réciprocités des droits et des devoirs. Si tu me dis qu'il y en a un qui fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, sans que l'autre puisse dire ni A ni Z, ça sera une promesse, ça sera un don, ça sera une loi, ça sera tout ce que tu veux, ou un testament, mais pas une alliance. Il ne faut pas appeler, il ne faut pas utiliser le mot sans savoir de quoi on parle, parce que sinon la confusion et les conséquences sont quand même salées. Bon, je... Comment ?
Je reprends parce que je ne suis pas sûr de faire bien la différence entre ce qui est apocalyptique et ce qui est eschatologique.
Si, dans le sens que l'Apocalypse attend toujours le salut final. Mais c'est un salut final qui est déjà déterminé par Dieu. Tout est prévu. Tout est écrit et c'est inéluctable, ça va venir. Tandis que pour nous, ce salut final, l'eschatologie, est déjà réalisé par la mort et la résurrection du Christ. Il reste à produire tous les effets, si Dieu est. Comme dit l'autre, pour ce qui est des dieux, il a fait déjà la plus grosse partie de son boulot. Maintenant, il nous reste quelques bricoles, enfin nous par exemple, mais bon, en dehors de ça, Dieu a fait sa plus grosse partie en et par Jésus-Christ. C'est dans ce sens. Tandis que pour les apocalypses, non, tout reste à venir, etc. Alors, il y a d'autres caractéristiques, mais pour moi, la plus importante et caractéristique de l'apocalyptique, c'est la prédétermination. Et le déterminisme, tout est déjà prédit. Sur nouveau, c'est du célèbre texte du livre de Tobie, où le fils Tobie va trouver le fric que son père avait prêté, etc. Et entre-temps, par la suggestion de son compagnon, il va se marier avec la célèbre Sarah. Et quand son compagnon lui propose, mais si, mais tiens, dans cette ville, tu as ta célèbre cousine, Sarah, qui n'est pas encore mariée, etc. Merci Sarah, je n'en avais pas. Il a eu des assiettes mariées à chaque fois, paf, pouf. Comme disent les jeunes maintenant, au moment du cracra, paf, paf, ils sont morts. Alors, et le compagnon qui se révèle après être l'ange, Raphaël, lui dit, t'inquiète pas, Sarah, t'es destinée à toi depuis toute éternité. Et le lecteur normal, il dit, bah, on aurait pu quand même prévenir les sept autres avant qu'ils meurent.
Ben ouais.
Mais non, il faut que ça se déroule. Donc là, le déterminisme, c'est ça. Donc là, effectivement, ça crée de gros problèmes par rapport à la liberté, par exemple. Bon, je vous laisse là et on se retrouvera vendredi.
Ça traitera de quoi vendredi?